C'est l'histoire d'un cœur qui cesse de battre et d'un autre qui veut battre pour deux. C'est l'histoire d'un grain de sable qui se glisse dans l'engrenage d'une vie heureuse. Un événement extraordinaire qui fait tout basculer. Ayam est comédienne, mariée, deux enfants, un joli rôle dans un prochain film, des projets plein la tête, une vie rêvée en somme. On dit qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Ayam a entendu un soir les pas du bonheur qui fuyait. Elle nous raconte sa version de cette nuit et celles qui ont suivi. C'est une histoire de cœur et de résilience, une histoire entre la vie et la mort, une histoire d'amour. Ce podcast est le premier des Belles Histoires, une série réalisée par Caroline pour Holisense. Il a été enregistré au Coq Hôtel, dans le 13e arrondissement à Paris, que nous remercions pour leur accueil. Bonjour Ayam, merci d'être là et d'inaugurer ces nouveaux podcasts. Tu es là parce que il y a quelques années, tu as vécu un événement qui a bouleversé le cours de ta vie. Et est-ce que tu peux nous raconter, peut-être qu'on va commencer direct dans le sujet, ce qui s'est passé durant cette nuit du 7 avril 2013 ?
Alors la nuit du 7 avril 2013, la nuit du 7 au 8, j'ai été réveillée par mon mari qui faisait des bruits très étranges en fait. Je pensais qu'il me faisait une sorte de blague, parce qu'il faisait vraiment des sortes de bruits avec sa bouche. J'ai eu beaucoup de mal à allumer la lumière et puis finalement... Ben, j'ai vu que ça n'allait pas du tout et qu'il était en train de partir. En fait, il faisait un arrêt cardiaque et il s'est figé devant moi. Je pense que j'ai su tout de suite en fait, qu'il faisait un arrêt cardiaque. Mon père avait fait un infarctus quelques mois avant et je me dis que c'était... Et puis aussi, ce qui s'était passé une semaine avant, c'est que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres ces espèces de petits formulaires des pompiers, ces petits calendriers, avec les gestes qui sauvent. Et il se trouve que j'avais fait un stage, voilà, à la Croix-Rouge. Et donc, dans une sorte de... Je sais pas, je m'étais dit, ah bah tiens, c'est vrai que j'ai complètement oublié
De réviser
comment est-ce qu'on fait un massage cardiaque. Donc, je me suis assise à mon bureau, comme ça, et puis j'ai mimé le massage cardiaque. Et donc, bah, cette nuit-là, une semaine après...
Quand tu as vu ce qui se passait ?
J'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ben voilà, donc il faut que je fasse ça. Et donc on a deux enfants quand même, hein, donc il était 5h du matin. J'appelle les pompiers, puis je tire mon homme par terre et je fais ce massage cardiaque. Au bout du fil, j'avais le pompier qui me disait, ça va aller, et qui m'encourageait. Mais ils ont mis très très longtemps à arriver.
Combien de temps t'as massé
Donc je l'ai massé pendant 25 minutes. Je sais que ça a duré 25 minutes parce que j'ai le téléphone qui décomptait le temps.
D'accord.
Et donc pendant tout ce temps-là, j'étais terrorisée. Et en fait, toute ma lutte, c'était de que la terreur ne prenne pas le pas sur ce que je faisais. Et donc juste rester dans l'instant, faire ce massage. Et à un moment donné, j'étais vraiment traversée d'un très grand découragement.
Ouais.
Parce que je me suis dit que ça faisait trop longtemps, qu'il n'arrivait pas. Et il s'est passé un truc un peu magique, c'est que mon homme a repris vie pendant un quart de seconde. C'est-à-dire qu'en fait, il est passé de violet à sa couleur normale.
Ouais.
Et il a fait une inspiration. Mais après, il est reparti. Et donc là, je sais pas, j'ai ressenti énormément d'adrénaline, énormément de colère en me disant « mais il est hors de question que je laisse tomber ». Et donc, je suis devenue une sorte de machine. C'est-à-dire que voilà, mon corps a pris le pas, en fait, sur moi, sur tout.
T'étais déconnectée de ton esprit. Quand tu...
Voilà, j'ai pas du tout vu le temps passer à ce moment-là. Et puis, je me suis souvenue que j'avais oublié d'ouvrir la porte en bas. Et donc, il se trouve que les enfants étaient venus. Je leur avais dit, vous repartez dans votre chambre. Et là, j'ai appelé ma fille. Et je lui ai dit, il faut que tu ailles ouvrir la porte en bas. On est dans une petite maison. Il y a une porte et puis un portail. Et donc, ils ont été extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout paniqué. Ils ont senti qu'il n'y avait même pas besoin de discuter. Ils ont descendu les escaliers. Mon fils, il a tenu la chaise à ma fille pour qu'elle aille attraper la clé en haut. Elle a ouvert la porte, et au moment où elle ouvrait la première porte, les pompiers sont arrivés. Donc, elle qui n'arrivait pas à sortir la clé, bah, les pompiers ont sauté par-dessus la grille. Ils sont montés. Et là, ils sont rentrés dans la chambre, ils m'ont dit de sortir. Et ils m'ont presque, on va dire...
Mais tu me racontais que tu avais même... T'arrivais même plus à t'arrêter, en fait. Hein,
J'arrivais plus à m'arrêter, j'étais devenue une machine. Donc, en fait, ils m'ont presque emmenée à l'extérieur de la chambre. Et là, normalement, j'aurais dû savoir, je savais très bien ce qui se passait. Normalement, j'aurais dû savoir que c'était ce moment-là qui était, on va dire...
Décisif.
Qui était décisif. C'est-à-dire que les pompiers, ils essayent de ranimer une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à un moment donné, si le cœur repart pas, bah, ça s'arrête. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai même pas réalisé ça. Je suis descendue en bas et j'ai commencé à prendre mon téléphone et à appeler toute la famille. À appeler ma mère, à appeler les parents de mon mari, à appeler le meilleur ami, etc. Et mes enfants m'ont dit, très simplement, ils m'ont dit « Maman, on peut aller se recoucher ?» J'ai dit oui. Et en fait, les pompiers m'ont rappelé, ils avaient réussi à faire repartir le cœur et ils emmenaient mon mari à l'hôpital. Donc à partir de là...
Ça a été l'attente.
Ça a été l'attente. C'est-à-dire que en fait, à l'hôpital, il fallait enlever le caillot. Mais durant l'intervention, mon mari a refait des arrêts. Le cœur était très très faible. Donc ils ont fait ce qu'on fait quasi tout le temps dans ces moments-là, c'est qu'ils l'ont plongé dans le coma. Et j'ai une amie voisine qui m'a emmenée à l'hôpital. Et moi, je ne savais pas du tout qu'ils allaient le plonger dans le coma. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai croisé en fait le brancard. Et j'ai vu mon mari... Moi, pour moi, on allait me dire qu'il était mort ou qu'il était vivant, mais je ne m'attendais pas à le voir passer inanimé. Et c'était déjà tellement dur, en fait, de le voir sans vie, chez moi, devant moi, comme ça, que je pense que je ne voulais absolument pas revivre ça. Mais là, il respirait. C'était différent. C'est-à-dire qu'il était endormi. Et donc, on a attendu. J'avais des médecins qui étaient extraordinaires. En réa... une interne qui m'a dit tout de suite toute la vérité, tout le temps, qui m'a dit qu'il avait quasi très peu d'espoir pour qu'il s'en sorte, et que s'il s'en sortait, il y avait quand même très peu de chances qu'il ressorte comme il était avant, que ce qu'il avait pour lui, c'est qu'il n'avait jamais eu de problème de santé, et que donc, bah, il fallait espérer. Et voilà, donc à partir de là, petit à petit, tout le monde, tout s'est organisé dans cette attente. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur ami de mon mari qui est venu, il y a mon beau-frère, son petit frère, il y a ma belle-sœur, enfin tout le monde est venu. J'ai eu beaucoup de monde à la maison. Le quartier s'est mis en ordre de solidarité d'une façon exceptionnelle, c'est-à-dire que comme en plus j'avais de la famille, eux ils avaient fait des menus et ils apportaient... Tous les jours, pour chaque repas, ils venaient avec des pizzas, qui un gratin dauphinois, qui ceci, qui cela.
C'était important ça, l'entourage, cette espèce de bulle de solidarité dans laquelle tu t'es trouvée
C'était hyper important parce que, en fait, mine de rien, ben, moi je me préparais quand même au pire. C'est-à-dire que je me disais que j'allais peut-être être une mère seule avec deux enfants. Et donc je me disais, bon, bah, ok, il y a du relais autour, quoi. Et ça, c'était pas rien du tout. Et honnêtement, je pense que j'étais incapable de faire à manger. Mais personne, de toute façon, n'attendait ça de moi. C'est-à-dire que toute la famille, il y en a qui sont mis à faire le ménage, d'autres qui ont pris en charge mes enfants. Je suis allée à l'école le premier jour, voir la directrice. Je sais pas, d'une façon très déterminée, je lui ai dit « Je sais pas ce qui va se passer, mais je veux que mes enfants soient heureux. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que mes enfants soient heureux. » Elle m'a pris dans ses bras, elle s'est mise à pleurer. Pareil, je pense que j'étais très très calme et très lucide et je savais ce qui pouvait arriver. Je suis allée voir l'interne et je lui ai dit, vous savez, moi je suis capable d'être avec mon homme même s'il sort handicapé, même s'il est sur une chaise. Ce que je veux savoir, c'est s'il m'entend et s'il sent ma présence, quoi. C'était ça le plus important. Et je lui ai menti, je lui ai dit, vous savez, il vient d'une famille très riche, donc, parce que j'avais qu'une seule peur, c'est qu'il le débranche, en fait. Je sais pas, je paranoïais, je me disais, il faut que je lui dise qu'on va pouvoir...
On a les moyens de s'occuper de lui.
Bon, je pense que ça se passe pas comme ça, mais voilà, j'ai fait ça. Et puis, j'étais tout le temps avec deux acolytes, qui étaient le petit frère de Xavier, et son meilleur ami, et qui était... extraordinaire. Et c'était vraiment deux épaules sur qui m'appuyer. Le frère de Xavier lui ressemble beaucoup, beaucoup. Son meilleur ami, c'est un grand baraque, etc. Et donc j'étais
portée.
Vraiment portée. Il y a eu toute la famille, il y a eu ma belle-sœur qui est adorable qui dormait toutes les nuits. Je me réveillais, j'allais la voir, je me mettais à pleurer dans ses bras. Et puis, 3 jours sont passés comme ça. On avait énormément de visites à l'hôpital. Tout à coup, je me suis rendu compte que mon homme avait des tas d'amis. En fait, il a travaillé pendant des années dans une compagnie où ils étaient comme des frères et sœurs. Et ça, j'ai senti une famille arriver, débarquer à l'hôpital. Et ils venaient tous lui réciter des textes. Et personne ne le voyait comme...
comme quelqu'un qui allait mourir.
Non, les gens nous disaient, parce qu'en plus, il avait une réaction qui n'était pas bonne pour les médecins, mais qui, pour moi, me rassurait, c'est qu'il était très agité. Et il faisait des sortes de crises d'épilepsie. Et pour les médecins, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'eux, ils interprétaient ça comme son cerveau est détruit, c'est fini. Enfin, c'est... Et puis, au 4e soir, on nous convoque et on nous dit... il ne s'est pas réveillé. Normalement, là, on a levé tous les produits qui l'endorment. Il aurait dû se réveiller, donc c'est fini. Il n'a pas de chance de s'en sortir. Pour nous, il n'a, en tant que médecin, notre diagnostic, c'est que c'est fini. Il y avait les parents de mon homme qui étaient là, il y avait ma sœur qui me tenait la main, qui était en larmes, il y avait son frère. Et moi, en fait, tout ce que je trouvais dans cette situation, c'était continuer à poser des questions, à être sûre qu'il ne se trompait pas, et puis gagner du temps. Pas gagner du temps parce que je croyais qu'il pouvait s'en sortir, parce que je croyais les médecins, mais gagner du temps.
Avec lui, quoi.
Avec lui, gagner du temps aussi parce que sa sœur, qui vit aux États-Unis, était dans l'avion et que je savais qu'elle était en route et que donc j'ai dit ça. J'ai dit
Faut qu'elle le voie,
vous pouvez pas le débrancher maintenant. Et ils m'ont dit non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous dit ça, mais on laisse le temps de se dire au revoir, etc. Je suis sortie, je suis allée voir mon beau-frère et je lui ai dit. Parce qu'il est prof de gym et prof de ski, je lui ai dit, t'apprendras à mes enfants à skier. Je suis partie dans cette vision de l'avenir sans lui.
Et puis une acceptation presque.
Une acceptation. Je pense que quand on traverse une sorte de tragédie, je crois pas qu'on se rebelle tant que ça. Je pense qu'on sait que, il y en a des tragédies dans la vie et que... Donc j'étais déjà en train de construire la suite, quoi. Et je pensais pas du tout à moi. Je pensais à mes enfants. Et je voulais qu'ils s'en sortent, quoi. Et au milieu de tout ça, je me suis dit, il est encore là, quoi. Donc je vais aller le voir et puis je vais aller lui parler. Et je suis rentrée dans la chambre et je lui ai dit, et je sais... pas pourquoi, je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai pris la main. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette période d'attente, en fait, j'étais tout le temps, en train de le toucher, de lui parler. Et ça, c'est vraiment grâce à ma voisine qui est venue avec moi le premier jour, qui m'a accompagnée, qui m'a dit « Et si tu lui laissais une écharpe ? Et si tu lui parlais ? Et si tu lui mettais de la musique ? Et si ?» Et d'un coup, je me suis autorisée, moi, à donner de l'amour, à être dans un contact avec lui, même si j'avais pas de retour.
Il n'y avait aucune certitude qu'il entende, voilà. Et qu'il le ressente, tout ça.
Et donc, j'étais pas du tout gênée, même, de faire ça devant les gens et tout. Enfin, toute ma pudeur était aux oubliettes. Et j'étais avec lui et je lui ai dit « T'inquiète pas, mon amour, tout va bien se passer. » Et dans ma tête, je me suis dit... Je lui disais ça pour qu'il fasse le voyage, quoi. Mm. Je lui disais ça pour qu'il sache que... il pouvait partir et qu'on allait bien s'occuper de ses enfants. Et voilà, je suis partie avec ça. J'ai dit à tout le monde que maintenant...
tu voulais être un peu seule.
J'allais être seule avec lui. Que tout le monde était venu le voir, que c'était super. Mais que maintenant, je voulais qu'il n'y ait que les très très proches. Que moi, j'allais dormir à l'hôpital les autres jours. Et je suis rentrée chez moi. On a tous pleuré. C'était très très dur. C'était très dur de m'occuper de mes enfants. J'avais l'impression d'être, un peu une traître. Mes enfants, je leur ai toujours dit la vérité. Parce que comme ils avaient vu leur papa sans vie, Le deuxième jour, c'était un mercredi après-midi, j'ai demandé à les emmener à l'hôpital. Et donc, il était à ce moment-là encore dans le coma. Et en réa, ils m'ont dit « Non, non, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. » Et ils m'ont envoyé direct chez la psy de l'hôpital. Et la psy de l'hôpital m'a dit « Mais vous avez entièrement raison, madame. Vous êtes une bonne mère et c'est vous qui savez. Donc, emmenez-les. » J'ai emmené mes enfants et ils ont parlé à leur papa. Et après, les jours qui ont suivi, c'était très dur parce que ça avait été très dur pour eux. Et donc, je leur demandais à chaque fois s'ils voulaient venir ou pas. Et ma fille m'a dit « Écoute, non, je ne vais pas revenir. Par contre, je veux que tu dises à papa que samedi, je vais revenir et que samedi, je veux qu'il se réveille. » Donc, je lui avais dit ça. Et donc, ce pronostic, cette fin qu'on nous avait dit le vendredi soir... Eh bien, il se trouve que dans la nuit, moi, j'ai appelé l'hôpital parce que je voulais savoir s'il avait eu encore des crises d'épilepsie, je voulais savoir s'il allait bien. Et je me disais, c'est encore la seule chose que je peux faire, c'est être avec lui le temps qu'il est là et m'occuper de le rassurer.
Il était encore vivant à ce moment-là.
Il était encore vivant. On pensait que son cerveau était détruit. On pensait que les 25 minutes qu'il y avait eu de massage cardiaque n'avaient pas suffi à l'oxygéner davantage. Et donc, c'était foutu, quoi. Et donc, dans la nuit, j'appelle, je dis, voilà, est-ce qu'il a encore syncopé, est-ce qu'il a encore fait des crises? Et là, l'interne qui était là me dit, non, mais par contre, il a ouvert les yeux. Mais ça peut ne rien vouloir dire, ça peut être un geste mécanique. Je dis, ok, je reviens demain à la première heure. Je me couche, il y avait ma fille qui s'est réveillée à ce moment-là, elle dormait tout le temps avec moi. Et elle me dit « Alors, papa, ça va ?» Et c'était très très dur de lui dire ce qu'on m'avait dit, donc je ne lui ai pas dit, parce que d'abord, il n'était pas parti encore, et je trouvais ça vraiment trop dur de lui dire une chose pareille. Donc je lui ai dit « Les médecins pensent que son cerveau va vraiment pas bien, donc c'est très dur pour lui. » Et là, ma fille me dit « Mais papa, c'est un super bricoleur, il va forcément réussir à bricoler son cerveau. » Elle avait 6 ans. Mon fils avait 3 ans. Donc le lendemain, je retourne à l'hôpital. Ma mère m'accompagne, mais pour la première fois, elle me dépose à l'hôpital. Pour la première fois, je fais tout ce trajet jusqu'à la chambre. Je traverse tous les couloirs, toute seule, vraiment toute seule. Et durant tout ce couloir, je sais que je vais voir dans son regard s'il est réveillé, s'il est là ou pas. Donc je traverse les couloirs. Il n'y avait personne. J'entre dans la chambre, je croise aucun interne, personne. Et là, je le vois, on se regarde et il pleure. Et on pleure tous les deux, quoi.
Et là, on pleure aussi.
Il ne pouvait pas parler parce qu'il avait encore la machine, le respirateur. Mais ses yeux étaient ouverts, il me regarde, il pleure. Et puis, je lui donne la main et je lui dis, mon chéri, si tu m'entends... Est-ce que tu peux me serrer la main? Et là, il met beaucoup, beaucoup de temps, mais il me serre la main. Je vais de l'autre côté, je lui donne l'autre main, je lui dis, est-ce que cette main-là, tu peux me la serrer aussi? Et il me serre l'autre main. Et je lui dis, j'ai des photos des enfants, parce que j'avais pris des photos avec moi, puisqu'il avait les yeux ouverts, et je lui dis, où est-ce que tu veux que je mette les photos? Et là, avec sa tête, il me montre le plafond. Donc, évidemment... C'était l'endroit où il pouvait le mieux voir ses enfants. Donc voilà, je sais que...
T'as compris à ce moment-là que tout fonctionnait.
Il est là. Et puis je vois les internes entrer. Je leur dis, non mais attendez, là vous n'allez pas me dire que mon mari n'est pas là et que c'est mécanique. Moi je sais qu'il est là. Il me dit, oui, ça va. Mais vous allez sortir de la chambre parce qu'on doit faire quelques tests. Et là j'entends derrière la chambre qu'ils appellent mon mari, qui lui disent, alors monsieur, vous allez lever la jambe. Voilà, c'est ça! Et donc, je me dis, bon, en plus, il va pas être handicapé, quoi. Et là, je vais chercher l'interne, je lui dis, bon, là, on est d'accord, hein, c'est pas le pronostic d'hier, on est sur autre chose. Hein. Et elle me dit, oui, il va pas repartir. Bon, alors maintenant, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous reposer, puis vous allez vous occuper de vos enfants. Je lui dis, ah, mais non, mais moi, je reste. Et elle me dit, non, non, mais... Vous vous rendez pas compte, vous avez fait énormément de choses. Et elle me dit, vous savez, les gens qui sont dans le coma, les gens ne restent pas comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Ils n'ont pas autant de monde qui vient les voir. Vous avez fait énormément. Allez vous reposer, je vous tiens au courant. Allez vous occuper de vos enfants. Je rentre. Déjà, je vais à la cafétéria avant. Je me pose, je prends 3 gâteaux. J'avais rien mangé pendant 4 jours. Et je commence une salve de coups de fil. J'appelle tout le monde. Il y en avait plein qui n'étaient pas là, puisque j'avais dit à tout le monde de me laisser toute seule avec lui. Donc voilà, j'annonce les bonnes nouvelles à tout le monde. Puis je rentre à la maison. J'annonce la bonne nouvelle à mon beau-frère, j'annonce la bonne nouvelle à mes enfants. Et là, ma fille me dit « Bon, là, il est réveillé, c'est bien. Cet après-midi, je veux qu'il parle. » Je dis « Ok. »
Peut-être qu'il tirait les ficelles un peu, en fait. Hein.
Et donc, je reçois un coup de fil à 13h de l'interne. J'allais repartir et qui me dit « Vous inquiétez pas, je vous appelle pas pour une mauvaise nouvelle. Je voulais vous dire que votre mari, il respire. » En fait, ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'ils attendaient de savoir s'il était capable de respirer tout seul. Et moi, et même moi, je m'étais dit, peut-être qu'on se revoit là pour la dernière fois, peut-être que c'est un cadeau qui nous est donné et qui va repartir. J'y croyais quand même, hein, j'étais pas, mais je pouvais me dire ça. Et là, donc, il respire. Donc, c'était super, je retourne à l'hôpital, et là, j'ouvre la porte et je vois mon mari en train de parler tranquillement avec ses parents, mais comme s'il s'était vu la veille, quoi. C'était extraordinaire, il avait toute sa tête, il avait tout.
Un miracle, quoi.
Un miracle. Plein de copains redébarquent avec donc le meilleur copain. On va voir l'interne, on lui dit « Mais je comprends pas, vous nous avez dit que c'était foutu. » Moi, je m'en fichais de savoir le pourquoi du comment. Mais lui, ça le rendait fou de rage. Il était très en colère contre les médecins qu'on ait pu nous dire que c'était,
sa mort
que c'était foutu. Et donc là, on a le médecin qui nous dit « Mais écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que vous, vous êtes heureux, mais nous, on est très heureux, parce que c'est quelque chose qui arrive très, très rarement. Et votre mari, il fait partie de ce qu'on appelle les 0,0,01% des ressuscités de la médecine. » Donc là, on comprend qu'effectivement, c'est un miracle. On le savait déjà, mais c'est un miracle.
C'est un miracle que tu as quand même... auquel tu as contribué en le massant pendant 25 minutes aussi, non ?
C'est ce que dit l'interne, c'est-à-dire qu'ensuite elle a redit ça devant tout le monde, elle a redit ça devant mes beaux-parents, elle a dit que j'avais fait un massage cardiaque extraordinaire, que 25 minutes de massage cardiaque, c'est très très difficile, que même des gens qui sont médecins n'arrivent pas forcément à le faire, et que donc c'est extraordinaire, et que s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à moi, c'est que je lui ai sauvé la vie.
Tu savais que tu avais ça en toi, ou tu t'en...
Non, je savais pas du tout. Je savais pas. Je suis quelqu'un qui m'imagine toujours le pire. Donc c'est vrai que peut-être que je me prépare psychologiquement et que de faire ce stage à la Croix-Rouge, c'était ma manière à moi de me rassurer. Mais non, j'aurais jamais pensé que j'allais être capable de dépasser la peur comme ça. Que j'aurais pu avoir cette force physique. Je pense que je suis allée puiser des ressources très très loin... en moi, de vie. J'ai repensé aussi à ce moment-là que je pense que j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas accouché. Que ce geste qui s'était mis en place comme ça, sans réfléchir, contre la douleur, contre la peur, et qui est lié à la vie, en fait. Ça m'est vraiment revenu aussi d'une expérience que j'avais vécue. J'avais accouché deux fois, j'avais accouché la deuxième fois sans péridurale. J'avais traversé une nuit entière avec les contractions, avec la douleur, avec la peur d'être traversée. J'étais terrorisée d'être traversée. Et j'avais réussi. Donc je pense que d'être une mère, ça m'a beaucoup aidée, en fait. Ça m'a énormément aidée. Et puis après tout ça, mon mari est revenu une espèce de joie énorme parce que tous les médicaments qu'il avait eus, en fait, l'avaient shooté à mort. Donc il n'était pas du tout écrasé par ce qui s'était passé. Il était extrêmement drôle. Il faisait rire toutes les infirmières, tous les copains. On avait des barres de rire quand on rentrait dans la chambre, quand on ressortait. Et donc il m'a demandé en mariage à l'hôpital. Un an et demi après, on s'est mariés chez nous, avec tous les voisins, avec tous les amis qui avaient été là. Parce qu'on avait... D'abord, on avait peur de traverser cet anniversaire-là. Donc on avait besoin d'un projet... juste de vie, pas y penser, penser à un truc qui allait bien, bien, bien nous occuper, hyper joyeux. Donc on a fait ça. Nos voisins nous ont dit, on a les jardins à côté, allez, on ouvre tout, vous pouvez le faire chez nous. Ils avaient une grande extension qui était encore en travaux à l'époque, donc on a utilisé leur grande salle vide pour danser, pour mettre la nourriture et tout, et on s'est mariés. C'était extraordinaire parce que tout le monde avait besoin d'un moment tellement joyeux après tout ce qu'on avait traversé. À la mairie, tout le monde était en larmes. C'était extraordinaire, quoi. Et les enfants, ils sont ressortis de tout ça, je pense, dans la joie, quoi.
Et votre couple, est-ce que tu... Et ben... sens il y a quelque chose qui a changé entre vous ? Est-ce que c'est pas rien, quand même, d'être lié par cette responsabilité de la vie de l'autre, désormais ? Je sais plus, je crois qu'il y a un proverbe qui dit « Quand tu sauves la vie de quelqu'un, t'en es responsable. »
Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, pendant longtemps, après, j'avais très peur que ça recommence. Alors qu'en fait, il y a quasi aucune... Enfin, mais sur le coup, j'avais très peur de ça. Donc après, j'ai travaillé, j'ai fait... une thérapie où on repasse par l'histoire, etc. J'ai mis à distance, c'est repassé dans la case souvenir, c'est plus dans la case en permanence trauma. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ça nous lie à un endroit extrêmement profond, que je pense que on était un couple, comme tout le monde, on pouvait s'engueuler, on pouvait être traversé de doutes, et aujourd'hui, on peut s'engueuler, on peut... pas être d'accord, aller même loin dans des différends, des choses comme ça, mais je pense que on a une confiance énorme l'un dans l'autre, en fait. Et ça nous a pas changé parce qu'on a les mêmes défauts, on a les mêmes complicités, la même manière de vivre, mais ça nous a changé dans un lien très 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 profond. Et ça nous a donné envie encore plus de profiter de la vie, de mettre loin tout ce qui peut être négatif, tout ce qu'on n'a pas besoin de se cogner comme difficulté, quoi. Ça m'a énormément changé parce que ça m'a mis en lien avec ma force, en fait. Une force de femme, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a toutes ce lien à la vie et à la puissance et à la mort. Mais à la vie, quoi, d'abord. Et puis ça m'a fait prendre conscience aussi que je pouvais faire absolument confiance à mon intuition. De la même manière que ma fille a dit des choses vraiment presque entre guillemets magiques, je dis pas qu'on est magique, mais je pense que ce que moi je lui ai dit qu'elle avait dit, il l'a entendu à un endroit de son cerveau, que le fait que ses enfants viennent là lui parler, il l'a senti, il l'a entendu, et que moi j'ai presque eu des signes prémonitoires, que je me sois préparée de cette manière. Je ne dis pas du tout que je suis devin, mais je pense qu'on peut être beaucoup plus à l'écoute de plein
des
de choses.
Signes, en tout cas, parce que ce papier que tu trouves dans ta boîte aux lettres une semaine avant, on peut le considérer quand même comme un signe.
C'est ça. Et en tout cas, il y a des choses qu'on fait, qu'on plante, sur lesquelles il faut s'accrocher. Et donc, que oui, on trace quand même un sillon, peut-être qu'on se prépare à certaines choses, et l'amour qu'on donne, il est puissant, quoi. Et que toutes les paroles d'amour qu'il a entendues dans son sommeil, ça l'a aidé à revenir. Aussi, j'ai pris conscience de la force de la parole, que moi, j'aimais les mots, j'aimais dire des choses que je pensais, que tous les mots d'amour que je lui ai dit comme ça devant tout le monde... c'était bien.
Comédienne, tu es...
J'écrivais déjà, mais je me suis sentie légitime de parler, d'écrire, de raconter des histoires. Je dis pas du tout qu'il faut avoir vécu des choses difficiles pour écrire, hein, mais moi, peut-être que j'en avais besoin. Peut-être que je me sentais pas complètement légitime, que j'avais l'impression que finalement ma vie était totalement banale. C'est que j'habitais pas en Inde, que je ne connaissais pas le monde entier, mais à travers ce voyage, oui, ça m'a reconnecté avec moi-même, avec beaucoup d'histoires aussi anciennes, mythiques, ça m'a donné envie d'écrire et de poser des mots sur le papier et de les partager surtout.
Écoute, merci en tout cas pour ce partage. Et je pense que tes mots feront du bien à toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont traversé des épisodes comme ça. Merci, Ayam.
Merci.